Bonjour et bienvenue sur Radio Tropique et dans cette nouvelle émission de Résonance. Résonance part sur les routes de la région. Au cours de cette saison radiophonique, Résonance vous invite à parcourir les routes de la région Rhône-Alpes pour aller à la découverte d'initiatives, de projets culturels et artistiques, afin de mieux en parler et de confier ainsi la parole aux porteurs de ces initiatives. Aujourd'hui, deuxième mission de notre enquête régionale, conservatoire et handicap, où en est-on ? Cette enquête nous conduit au sein de différentes écoles de musique, associatives ou municipales, de conservatoires de musique, soit à rayonnement départemental ou régional, et avec les équipes d'enseignants, la direction, les parents d'élèves, les élèves ou adultes en situation de handicap, nous observons quelle est la situation en 2014. Comment les enfants ou les adultes en situation de handicap sont accueillis dans ces espaces de pratique musicale? Comment cela se passe? Comment favorise-t-on l'accueil du handicap en milieu ordinaire dans l'école de musique, dans le conservatoire? Notre enquête nous conduit en Savoie, à Bassens, une commune, située dans la périphérie de Chambéry, pour aller à la rencontre de l'école de musique, une école implantée au cœur du centre hospitalier et de soins. Cette émission a été enregistrée le 31 janvier dernier dans l'auditorium du CHS de Bassens. Et pour cette deuxième émission de notre enquête régionale, conservatoire et handicap, où en est-on ? J'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Augier, le directeur du CHS de la Savoie. Bonjour.
Bonjour.
Anne-Gaëlle Lasso, déléguée communication culture du CHS de la Savoie.
Bonjour. Bonjour.
Jean-Pierre Buet, conseiller technique, coordonnateur du réseau des établissements d'enseignement artistique à diapason EPCC 73. Et vous avez été, justement, on y reviendra tout à l'heure, le directeur à l'époque qui a participé à la mise en place de cette aventure. Bonjour.
Oui, bonjour. Effectivement, en 98, quand l'école s'est installée au sein du CHS, j'occupais la fonction de directeur de la structure.
Merci Jean-Pierre. Et puis à vos côtés, Fabrice Chardon, coordonnateur aussi santé sociale, toujours aussi à diapason EPCC 73.
Bonjour à tous.
Merci. Et enfin, nous arrivons aussi également à des représentants aussi de l'école de musique, et notamment avec Daniel Hidalgo, qui est le directeur de l'école de musique de Bassens. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et puis également un professeur de percussion, Monsieur Pajan Yann, qui est à nos côtés.
Bonjour.
Et puis bien sûr, et ça c'était aussi important pour que nous ayons une pluralité de points de vue et de parole, la présence aussi d'une personne, du personnel donc de l'établissement du CHS, avec Bernard Gros-Leron, infirmier psychiatrique.
Bonjour.
Bonjour. Merci vraiment à tous d'être là. L'aventure qui se vit ici, à Bassens, c'est que nous allons découvrir ensemble, c'est l'histoire aussi finalement d'une collaboration de trois partenaires, un hôpital psychiatrique, une école de musique municipale, et puis aussi une structure culturelle départementale qui est diapason. Alors peut-être, c'est avec vous Jean-Pierre Buet qu'on pourrait commencer dans un premier moment cette entrée en matière, puisque effectivement, on le disait tout à l'heure, vous étiez le directeur en titre à cette époque de l'école de musique. On peut souligner que c'est quand même une initiative assez rare, d'une part dans la région, mais on pourrait même l'étendre à l'échelon du territoire national, une telle initiative d'implanter une école de musique au sein d'un établissement de soins comme celui du CHS de la Savoie. Alors, comment les choses se sont finalement présentées pour finalement que cette installation et cette collaboration prennent naissance?
Donc, nous sommes installés. Enfin, l'école de musique est installée depuis 98, donc au sein du CHS. Ça s'est passé à un moment donné où l'école, donc, est une école cantonale qui rayonne sur 10 communes, était à la recherche de locaux puisque l'enseignement était dispersé dans différentes communes et il y avait besoin à un moment donné d'avoir un peu un centre pour faire prendre un peu d'envergure, développer les activités de la structure. Et puis donc il y avait à une période, mais Monsieur Augier pourra peut-être en parler après, une volonté d'ouverture de l'hôpital, des bâtiments qui étaient disponibles. Voilà, on a travaillé avec la municipalité de Bassin, qu'on a sollicité pour nous trouver donc des locaux. Et voilà, les choses se sont faites à ce moment-là.
Je dirais assez naturellement, finalement.
Assez naturellement, on a repéré les lieux, donc le château de Bressieux, on a regardé ce qui était possible en fonction des volumes, ce qui pouvait être aménagé.
C'était un château, un lieu qui était inoccupé jusqu'à présent, à ce moment-là?
Quand on est arrivé, le rez-de-chaussée avait encore un service de soins, mais l'étage où il y a l'école de musique était inoccupé. Donc du coup, voilà, les travaux ont été pris en charge par les communes, puisque donc l'équipement est intercommunal. L'aménagement, et voilà, ça s'est fait avec un...
Oui, donc il y a quand même eu à un moment donné une décision intercommunale. Donc du coup, ça veut dire que tous les autres maires, pas simplement celui de Bassin, mais les autres ont été conviés finalement à statuer.
Les travaux d'aménagement ont été financés par l'ensemble des communes, et le fonctionnement actuel est partagé par l'ensemble des communes qui portent l'école de musique.
Oui, ça c'est vraiment intéressant. Alors peut-être du côté du CHS, Monsieur Augier, comment justement une telle initiative était perçue à ce moment-là, et là aussi comment l'hôpital s'est engagé finalement dans cette coopération?
Les choses se sont passées finalement assez naturellement, dans la mesure où ce projet, cette ambition de déplacer l'école de musique sur un secteur qui est un petit peu atypique a priori, correspondait bien à l'évolution assez naturelle de l'hôpital, qui est un hôpital psychiatrique, un des plus anciens de France, qui a même été un hôpital piémontais avant d'être français, puisqu'il a été créé en 1827, 1858 à Bassin, était un hôpital extrêmement fermé jusqu'aux années 60 à peu près. Puis à partir des années 60, et sous l'influence de ce qu'on a appelé la deuxième révolution psychiatrique, la première étant la construction des hôpitaux, la deuxième étant le fait de vouloir soigner aussi à l'extérieur de l'hôpital, il était évident que les pratiques médicales et soignantes étaient plus tournées, étaient au moins autant tournées vers l'extérieur que vers l'intérieur. Et que l'acte de soigner, mais ça sera sans doute dit mieux que moi tout à l'heure, l'acte de soigner avait peut-être des liens avec la contention et l'enfermement, mais n'avait que des liens thérapeutiques. Et donc, le fait d'ouvrir l'hôpital était culturellement quelque chose d'admis et même de défendu de manière assez volontariste. Donc l'hôpital s'était constitué à l'intérieur de ses murs, puis développé à l'extérieur de ses murs, puisque sur la commune de Bassin, à l'extérieur d'ancien hôpital, on a créé des services à partir des années 60. Puis à la fin suite à un legs à la fin du 19e siècle, dans le château de Bressieux, un certain nombre de services avaient été implantés. Et moi, j'ai connu il y a une vingtaine d'années l'époque où il y avait une trentaine ou une quarantaine de lits dans le château de Bressieux. Puis après, il y a eu une époque où on a pratiqué la sismothérapie dans ce bâtiment. Puis à la fin des années 90, le bâtiment était inoccupé, sauf effectivement par l'ergothérapie de l'hôpital. Donc, à ce moment-là, il y a eu la rencontre de plusieurs volontés, je pense, une volonté d'élus, une nouvelle municipalité en 95, qui, avec la direction de l'hôpital et, l'organisation départementale, ont su trouver un terrain d'entente et ont su travailler en bonne intelligence pour que les principes, que la réalité rejoigne les principes et que la volonté de tous d'ouvrir la psychiatrie sur la communauté et d'ouvrir, je dirais, la cité sur ces lieux un peu patrimoniaux se rejoignent. Et donc c'est comme ça que les choses se sont faites assez naturellement. Je crois que c'est en 98, mise à disposition de locaux et puis surtout, je dirais, partage de l'espace public Ça se passe de manière assez dynamique. On voit la population de l'école et la population de l'hôpital qui finalement se croisent dans un climat très satisfaisant et dans un cadre qui est agréable.
Ça, oui, effectivement, il faut dire aussi que le cadre est très beau. Les espaces aussi naturels sont là. C'est vrai quand on vous entend, on a quelque chose d'assez remarquable finalement dans les partenariats, les volontés, vous l'avez souligné, à plusieurs niveaux, du côté de la santé, du côté de la culture, de maires aussi. Peut-être encore un petit mot, Jean-Pierre Buet, par rapport à ça, puisqu'on évoquait aussi la structure départementale. Peut-être à cette époque-là, est-ce que là aussi, il y avait déjà une préoccupation? C'était pas diapason à l'époque, on était avec une autre dénomination de la structure. Il y avait encore des ADIM qui après se sont transformés.
C'était la DMS.
C'était la DMS, encore, puisqu'il n'en reste plus qu'une maintenant dans l'Ain seulement de structure associative de cet ordre-là. Mais quel était un petit peu peut-être l'état d'esprit à ce moment-là pour que aussi cette structure finalement vienne soutenir, j'imagine, travaille aussi dans les liants et dans l'établissement de cette collaboration.
Alors je pense que les choses sont allées assez vite puisqu'on était avant les schémas départementaux puisque la loi date de 2004. Oui. On a été un petit peu précurseur, je pense, par le fait du hasard puisque c'est vrai que le contexte s'y prêtait. On était sur un territoire où il y avait une structure hospitalière, et que du coup, dans la convention, quand l'école de musique s'est installée dans l'établissement, il y avait bien évidemment la mise à disposition de locaux, mais on avait bien en contrepartie prévu qu'il y ait des actions qui se fassent en lien avec l'hôpital pour que la culture puisse entrer.
Il y a quand même eu un cahier des charges qui s'est travaillé.
Il y a eu un cahier des charges. Alors au début, il a fallu que ça prenne sa place parce que je ne vous cache pas que quand on est arrivé, il y avait une volonté au niveau des politiques, une volonté au niveau de la direction, mais tant au niveau des parents d'élèves qu'au niveau des soignants, il y a eu un temps d'observation, on va dire.
Ce qui paraît tout
à fait
normal.
On va pas dire de résistance. Il a fallu que les choses s'installent tranquillement. On a cherché nos repères. Au début, on faisait des animations un petit peu de manière régulière, mais qui n'étaient pas vraiment ancrées. Et il a fallu, je pense, que les différents publics se connaissent, se côtoient, pour apprendre.
Apprennent à se connaître.
Et
finalement.
Voilà, je pense que l'école de musique a pris sa place. Monsieur Augier le disait tout à l'heure, depuis 98, il n'y a jamais eu de problème lié au croisement des publics sur le site. On n'a jamais eu aucun souci, ça je pense que c'est à souligner.
Bien sûr.
Parce que c'était une crainte que certains parents avaient, et des soignants aussi, et on n'a jamais eu de souci, je touche du bois comme on dit, mais je pense que les choses sont bien canalisées, et ça a permis... Alors c'est vrai que c'est atypique, parce que moi je me souviens au début, pendant les cours, les profs peuvent en parler, des fois il y a des patients qui arrivaient pendant les cours...
C'est ça, j'allais vous poser cette question. Oui, comment, du coup, dans le quotidien, fonctionnement
C'était les patients, ça faisait partie du site. Donc ils venaient, ils entendaient de la musique, on a eu des patients qui assistaient à des répétitions, à des cours. On a appris, j'avais aucune formation, un peu une sensibilité, et on a découvert, en s'installant sur le site, on a appris à se connaître, et puis on a eu un accompagnement aussi avec les soignants, parce que chaque fois qu'il y avait des actions en direction du public de l'hôpital, des patients, il y a toujours eu un accompagnement par les soignants, quand on fait des prestations avec les enfants dans les services, cet accompagnement me paraît important.
Oui, ça me paraît également important. Et du coup, c'est sûr, vous évoquiez les parents, peut-être leur surprise aussi. Ils ont suivi quand même d'emblée facilement.
Oui, on a eu, je crois qu'on a dû perdre un ou deux élèves liés à l'installation sur le site. Mais ça n'a pas changé vraiment. Les choses se sont faites naturellement. Il y a eu une période, je dis bien, d'adaptation. Maintenant, je pense que les gens ne se posent plus la question et que les choses paraissent naturelles.
Alors peut-être pour mettre du concret aussi, on vient de l'évoquer un petit peu dans la biographie, un peu de cette aventure, on va écouter peut-être un premier extrait, on y reviendra aussi avec, je pense aussi, Yann Pajan dans cette aventure. Et là, ça lie la Batucada du CHS et puis une rencontre avec le quatuor de Bussy et puis le compositeur aussi Maxence Grimbert-Barré. Et on va écouter cet extrait alors qui lui est un extrait de terrain enregistré à un des moments de répétition, mais je trouve que c'est important de découvrir justement ce moment de rencontre. Voilà, vous êtes bien toujours sur Tropic FM et nous sommes toujours à l'auditorium du CHS de la Savoie à Bassens. Et nous venons d'entendre un travail, l'enregistrement qui associait la batucada du CHS, mélangé, associé au quatuor de Bussy. Et puis là aussi, il y avait la collaboration musicale dans l'écriture, en tout cas d'un compositeur, Maxence Grimbert-Barré, et peut-être avec Yann Pajan et puis Daniel Hidalgo, on pourrait évoquer, Jean-Pierre Buet nous a dit un petit peu cette installation, ce cahier des charges, ce croisement des publics, cette installation-là aussi. Là, quand on entend la présence d'un quatuor de Bussy, la présence d'un compositeur, le fait, ça veut dire aussi que toute une dynamique, finalement, s'est enclenchée de projets, finalement, et de rencontres.
Oui, ça donnait l'occasion justement de pouvoir bénéficier d'artistes sur le site, invités par l'école de musique, invités par l'hôpital, et de monter des projets en commun. Et c'est vrai que là, on a eu de beaux partenariats. Chaque année, on arrive à avoir un partenariat aussi avec un festival. On fait venir des artistes. On travaille, nous, école de musique, avec les musiciens, et on fait deux concerts sur l'hôpital. Et autant faire se peut, on essaie à chaque fois qu'on a la possibilité de travailler avec des artistes ou on a des artistes sur la région, on essaie de voir croiser. Si on peut monter et de monter un projet. C'est pas toujours évident, mais on essaie.
J'imagine.
Voilà. En tout cas,
ça c'était 2010 hein, avec le quatuor de Bussy, oui. Hein, ça.
Voilà.
Voilà. Et donc, du coup, si on veut justement venir sur un projet comme celui-ci, comment il s'est bâti? Ça veut dire que vous avez... Alors, on va y venir tout à l'heure. Hein, l'hôpital s'est engagé, lui aussi, fortement, je pense, avec le programme culturel hôpital, etc. On va y venir, mais peut-être est-ce que ça veut dire que c'est une concertation aussi avec l'hôpital? Il y a des choses qui se passent à ce niveau-là pour imaginer un tel projet?
Il y a plusieurs. Je pense qu'il y a une demande de la part de musiciens de vouloir venir dans des institutions... ensuite, il y a des projets en commun. On élabore avec Angel, on cherche, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire venir comme musique, quel genre de musique, quel style de musique pourrait être mis en valeur cette année. Et on essaie de trouver des groupes. La difficulté, c'est vrai que c'est de trouver des musiciens. Jusqu'à présent, on n'a pas eu trop de problèmes.
Trop de problèmes à trouver des collaborations.
Voilà, les musiciens qui viennent sont quand même des gens très ouverts. Et en tout cas, on le sent au niveau du contact. Ça se passe vraiment très bien.
Alors Yann Pajan, on entendait là, justement dans l'introduction de cette pièce, avant que le quatuor à cordes arrive et s'installe lui aussi avec son écriture et se mélange à cet élément percussif et rythmique. Voilà, c'est facile de faire une batucada alors avec le public qui est là.
Ça nous a demandé un petit peu de travail et puis le quatuor s'est très bien adapté aussi à ce qu'on avait fait. Mais en tout cas, c'était un projet qui a bien marqué les musiciens de la batucada puisqu'ils m'en ont... Il m'en parle toutes les années, jusqu'à l'année passée. Voilà, non, ça s'est très
Alors peut-être c'est au niveau du processus qui semblerait aussi intéressant, parce que finalement, dans ce que vous m'en expliquiez tout à l'heure, hors antenne, finalement, le quatuor de Bussy est venu entendre, découvrir le travail de la batucada, et à un moment donné, ça va déclencher un travail d'écriture. C'est-à-dire, du coup, on part bien de l'existant d'ici, des savoir-faire qui étaient ici, et non pas d'une partition extérieure, conçue par quelqu'un d'autre à l'extérieur, mais bien des potentialités présentes.
Exactement. C'est eux qui sont adaptés, en fait, à notre travail, en faisant une séance d'enregistrement des rythmes qu'on avait travaillés. Et ensuite, il y a même plusieurs compositeurs, il me semble, qui se sont mis au travail sur nos rythmes, et qu'on écrit des morceaux vraiment chouettes pour nous. Et
ça veut dire qu'après, il y a eu des allers-retours avant ce que nous avons pu entendre là tout à l'heure.
Ils sont venus répéter
avec vous.
Oui, évidemment.
Est-ce que les compositeurs sont venus, par exemple, vous
rencontrer? Non, on n'a pas vu les compositeurs.
D'accord.
Non,
on n'a pas pu aller jusque-là.
Non, voilà. Le quatuor qui est venu avec nous. Ouais.
C'est ça.
Qui est venu travailler au château avec nous. Ouais.
Et Daniel Hidalgo, ça veut dire que d'autres, là on parle du quatuor de Bussy, mais quels autres artistes, par exemple, sont venus vous rejoindre à certains moments?
Alors, on a des artistes dans le cadre du Savoie Jazz Festival.
Oui.
On a un partenariat avec le Savoie Jazz Festival et on fait intervenir des groupes. Et chaque année, on propose à la fois un concert en après-midi pour les patients de l'hôpital et les personnels soignants. Et le soir, c'est un concert plus ouvert à tout public. Voilà. Et à chaque fois, on a des gens qui vivent à l'hôpital, qui viennent écouter. Voilà, c'est une rencontre assez intéressante, une ouverture surtout.
C'est ça. Oui, parce que là, il y a tout un public très différent de Chambéry et des alentours qui vient aussi, bien évidemment, sur le site, découvrir aussi.
Les concerts sont ouverts au public, oui. Voilà. Ils sont dans la programmation départementale, ils font partie de la programmation du Savoy Jazz Festival. Et quand nous, École de musique, on fait des spectacles aussi au CHS, c'est dans l'auditorium ici, on ouvre au public. Il n'y a pas de problème pour ça. Ça fonctionne très bien.
Une vraie dynamique d'ouverture.
Oui.
Je pense aussi qu'en même temps, Monsieur Augier, et puis on pourra aussi évoquer avec Anne-Gaëlle Lasso, cette dynamique que l'on sent de l'École de musique, cette manière de s'investir aussi dans ses projets artistiques, facteur d'ouverture, de rencontre, ça vient aussi également, on l'a dit un petit peu avec cette ouverture, ces volontés communes de départ, mais aussi parce que maintenant, le CHS en tant que tel, il s'est engagé culturellement aussi. Et alors, on pourrait parler du programme Culture à l'hôpital et puis maintenant Culture et Santé qui a changé un peu d'appellation mais qui est une continuité. Peut-être vous pourriez nous dire un peu justement, est-ce que c'est cette énergie finalement concomitante avec l'École de musique, c'est ce qui a permis à l'hôpital d'aller aussi dans ces directions, ou c'était déjà des choses qui étaient en gestation et que du coup là il y a une concomitance d'énergie?
Je pense que ça y a contribué grandement. Il y a peut-être deux faits qui ont été ces dernières années importants au niveau de l'hôpital. Le fait prépondérant, c'est effectivement l'École de musique. Il y a aussi une démarche par rapport au cinéma qui a été engagée il y a quelques années, bon, qui sont un peu spécifiques à l'hôpital. C'est vrai que depuis une quinzaine d'années, beaucoup sous l'impulsion de la région Rhône-Alpes, il y a une démarche hospitalière d'ouverture vers la culture, pour des raisons qui aujourd'hui paraissent évidentes, qui n'étaient peut-être pas nécessairement dans le passé, où l'hôpital était un peu un sanctuaire, un peu déconnecté du reste de la cité. Bon, aujourd'hui, le fait de considérer que l'hôpital est bien dans la cité, ça implique effectivement et ça induit qu'il y a des liens avec le monde de la culture et je dirais tout ce qui participe de la vie de la collectivité. Donc il y a une démarche régionale et c'est vrai que l'hôpital c'est plutôt mieux inscrit dans cette démarche que Anne-Gaëlle précisera peut-être plus clairement que moi et plus en détail, mais il s'est peut-être mieux inscrit dans cette démarche parce qu'il avait déjà dès la fin des années 90 noué ses partenariats et puis s'était rapproché d'autres acteurs. Et donc, je pense que les choses ont été plus faciles. Un peu comme le Vinatier.
C'est ça qui est l'autre exemple.
À travers la ferme, a eu sans doute plus de facilité pour intégrer les ponts avec la culture. Voilà.
Anne-Gaëlle Lasso, vous êtes déléguée communication culture justement du CHS et à ce titre-là, je dirais, celle qui coordonne un petit peu toute cette action culturelle, peut-être sur deux plans, à la fois sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire cette présence de l'école et comment du coup se construit, s'élabore cette connivence finalement entre les deux. Et puis après, ce qu'on évoquait avec Monsieur Augier, cette autre dimension de l'hôpital et de son développement culturel et de son ouverture, peut-être un peu sur ces deux aspects-là.
Alors la collaboration avec l'École de musique est aujourd'hui évidente. On a parlé donc de leur installation depuis 1998. Donc pour nous, c'est des voisins. On est à 50 mètres les uns des autres. Et on a des contacts réguliers, j'allais presque dire quotidiens. Tout à l'heure, Daniel évoquait la présence parfois de patients dans les cours de musique. C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc on a des appels parfois de l'école en nous disant « il y a monsieur un tel qui est là, c'est très bien, il écoute et puis il redescendra quand il en aura assez entendu ». Voilà, donc ça c'est une première chose, cette présence. Et puis après, on arrive à mettre en place... Alors nous, ce qui est important au sein du CHS, c'est favoriser la pratique artistique pour nos patients. Donc avec l'École de musique, on a pu mettre en place des ateliers musicaux. Donc la batucada, la percussion brésilienne. Il y a eu d'autres aussi propositions les années précédentes, du chant.
Par ça veut dire que donc régulièrement, certains des patients accueillis pour une certaine durée sont dans les cours différents de l'école.
Non, alors voilà, pas les cours. Oui, voilà. Alors pas les cours spécifiques de l'école de musique, d'accord, mais bien des cours. Alors là, pour le coup, spécifiques mis en place par le CHS, mais animés par des professeurs de l'école de musique. Yann Pajan, par exemple, anime un atelier de patients à l'école de musique. C'est voilà.
Ça. Oui, ça c'est intéressant, on y reviendra tout à l'heure sur cette modulation de fonctionnement, hein, justement.
La spécificité, tout de même, c'est que l'école de musique accueille son public à partir de 17h.
C'est ça.
Et que nous, à partir de 17h, notre public n'est pas forcément disponible. Donc il y a des choses qui se mettent en place ensemble, mais pour la mise en place des ateliers artistiques eux-mêmes, c'est bien différencié. Voilà.
Oui, voilà, c'est ça. Et peut-être, Daniel Hidalgo, le fait qu'il y ait cette collaboration avec le CHS, avec ce public aussi qui fréquente cet établissement, est-ce que ça a donné lieu à ce que d'autres personnes, élèves ou parents d'enfants ou d'adultes en situation de handicap, se manifestent alors à ce moment-là auprès de l'école pour dire est-ce que je peux, vu votre expérience, vu ce qui se passe ici, est-ce que je peux être accueilli dans l'école? Est-ce que je peux participer à quelque chose?
À ce jour, on a eu deux personnes en situation de handicap, mais ce sont des adultes uniquement, qui sont dans des centres, des ateliers protégés. Voilà, qui travaillent, ils sont autonomes, ils sont dans des ateliers protégés, qui ont décidé à un moment donné de faire de la musique. Moi, personnellement, je connais bien le problème, puisque c'est moi qui les ai eus en tant que professeur à l'école.
Donc, directement.
Directement concerné par l'élève. Il y en a un qui est arrivé à l'école de musique, il était jeune, il avait 9 ans. Il a appris la musique dans le contexte de l'école, avec un aménagement un peu particulier, au niveau des cours, tout ça. Et dès qu'on a pu l'intégrer dans des pratiques collectives, on l'a tout de suite intégré dans les pratiques collectives, et ça fait maintenant, il est là depuis 25 ans, il est dans les pratiques collectives, toujours avec nous. Voilà. Et la deuxième personne elle est arrivée cette année à l'école de musique, et elle débute, elle a commencé à intégrer un orchestre cette année, mais voilà, dès qu'on peut les intégrer, de toute façon, nous, c'est notre objectif, c'est de les faire jouer ensemble, et de les mélanger aux musiciens, quoi. De toute façon, on ne va pas faire de différence. Une personne, elle vient, elle joue, elle intègre un orchestre, et en tout cas, il n'y a jamais eu de problème. Les intégrations sont faites toujours.
Je trouve que c'est important ce que vous dites. Et du coup, peut-être si on pousse un tout petit peu les choses plus loin, j'imagine après certains profs. Alors vous avez expérimenté en direct. À un moment donné, quand ces musiciens ont rencontré d'autres professeurs de l'école et qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire, est-ce que, du coup, qu'est-ce que ça a provoqué? Est-ce que ça veut dire que l'équipe au niveau du travail de l'équipe des enseignants de l'école, il y a eu des concertations là-dessus? Comment ça se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Moi, j'ai peut-être pas trop envie de pouvoir transmettre à cette personne. Quel type de questionnement de...
C'est simplement comment on doit s'y prendre, qu'est-ce que je dois faire. C'est vrai qu'il faut expliquer. C'est vrai que les personnes ont une pathologie, il faut quand même expliquer un petit peu la pathologie. Moi, j'ai eu beaucoup de contacts avec l'élève que j'avais. J'avais beaucoup de contacts avec les parents. Voilà, et ça s'est toujours bien passé. Après, il faut bien discuter, ça c'est sûr.
Ouais. Donc ça demande une concertation, ça apprendre à se connaître les uns et les autres.
Oui, ça c'est...
Et du coup, ça a donné l'envie aux autres professeurs de se dire, nous aussi, on pourrait...
Je pense pas qu'ils... Pour l'instant...
Le nombre ne fait pas que...
On n'a pas eu de demande directe pour d'autres instruments. Donc on attend, mais les portes sont ouvertes.
Et du coup, dans la collaboration, par contre, là, avec les patients du CHS, d'autres professeurs se sont trouvés impliqués aussi dans les projets.
On a eu des partenariats, sur certains projets, des croisements de groupes aussi. On le fait dès qu'on a une opportunité, qu'on peut mettre en valeur justement le musicien, on le fait, quoi.
Vous êtes toujours sur Radio Tropique et nous sommes à l'auditorium de Bassin du CHS La Savoie. Et nous continuons justement notre enquête régionale sur conservatoire et handicap. Où en est-on? Et avec tous ceux qui nous ont rejoints autour de cette table ronde, nous continuons un petit peu d'avancer. Et là, l'extrait musical que nous venons d'entendre, c'était Jean-Pierre Molière, un des musiciens des percussions de Treffort, qui faisait sur une improvisation vocale, voix chantée sur tout un ensemble de résonants. Et ça, c'est une petite pièce donc improvisée qui date de 1999. Alors, nous continuons peut-être avec vous encore, Anne-Gaëlle Lasso. On évoquait déjà un peu de l'intérieur l'école, mais ce qui semble aussi intéressant, c'est que finalement, sans parler d'exemple, mais en tout cas cette initiative qui s'est développée ici a fait que le CHS finalement a rencontré et a tissé des liens avec d'autres écoles de musique.
Oui, on a depuis tissé des liens avec quelques écoles de musique du département de la Savoie, pour rappeler aussi que le CHS est inscrit dans le dispositif culture et santé, ce qui nous a permis effectivement de mettre en place une politique culturelle affichée et donc de pouvoir discuter avec ses partenaires de manière facilitée. Un autre partenaire qui nous a énormément facilité la tâche, c'est Diapason. Qui donc travaille sur le département et sur le schéma départemental des pratiques artistiques, qui a permis, grâce à donc Fabrice et Jean-Pierre qui sont présents, de faciliter les contacts avec les directeurs d'écoles de musique. Aujourd'hui, le CHS a donc une activité sur Bassin, qui est l'hôpital psychiatrique, et une cinquantaine de structures extra-hospitalières sur l'ensemble du département. Donc nous avons des structures qui peuvent se trouver par exemple à Saint-Jean-de-Maurienne et qui souhaitent mettre en place des activités. Et entre autres, le CATTP de Saint-Jean-de-Maurienne participe à une action musicale, à une activité musicale à l'école de musique de Saint-Jean-de-Maurienne avec un professeur de l'école.
Avec un professeur de l'école.
Voilà.
Oui, ça c'est intéressant, cet élément de propagation quoi, finalement. Oui.
On a vraiment réussi à propager l'idée qu'on avait pu mettre en place à Bassin grâce à ce schéma-là. Et aussi, je pense maintenant au fait que c'est au niveau des directeurs des écoles de musique que c'est rentré un petit peu dans les normes.
Voilà. Il est vrai que la loi 2005 aussi, du mois de février 2005, aussi vient aussi conforter ça, puisqu'elle a incité quand même très fortement tous les établissements culturels, en tout cas d'accueil de public, quel qu'il soit, à justement se mettre en capacité, non seulement côté du bâti, ce qui est bien sûr une chose essentielle, que les personnes aient accès au cadre bâti de ces lieux de culture et de patrimoine culturel, mais en même temps, et c'est ce qui nous intéresse un petit peu d'approcher aujourd'hui, également, c'est l'accès au contenu, l'accès aux pratiques elles-mêmes, comment on va pouvoir aussi, pour ces personnes, faire qu'elles puissent s'exprimer et acquérir aussi les matériaux nécessaires pour pouvoir s'emparer de telles disciplines artistiques.
Mais vous le dites bien, l'accès au bâti est déjà très très important, ne serait-ce que de décentraliser une activité qui pouvait se passer dans un lieu de soins et d'aller et de faire 50 mètres pour aller à l'école de musique, c'est déjà un exploit très intéressant en tout cas. Voilà. Puis ensuite, s'il peut y avoir un partenariat avec un professeur de l'école de musique, c'est on a tout gagné.
Peut-être on pourrait avoir justement dans ce rebond, dans ce que vous dites, Anne-Gaëlle Lasso, le fait que ça nécessite aussi des énergies, ça nécessite aussi des concertations, des collaborations. Comment aussi, peut-être, Bernard Grosleron, en tant que, justement, appartenant au personnel de santé, on vit ça de l'intérieur, finalement. Une école de musique est là, des activités artistiques qui se mettent en place. Quelquefois, ça doit bousculer, j'imagine, aussi des organisations. Comment ça se passe ?
Oui, ça bouscule pas mal de choses, mais je pense qu'il faut remettre, en tant que soignant, je remettrai le patient au centre.
Bien sûr, voilà. L'usager au centre.
L'usager, je préfère, moi je suis
le patient.
Le patient, parce que les gens sont patients avec nous. Alors voilà. Donc je pense que c'est lui le remettre au centre de l'activité, hein, de l'activité, quel que soit le type, là, artistique. Et le faire participer, c'est ça l'important.
Bien sûr.
Parce que ça permet, je pense, que les activités artistiques permettent aux patients de s'exprimer. De s'exprimer peut-être des choses qu'ils ont du mal déjà à dire en eux. Et puis, je pense qu'on peut partager des tas d'émotions avec quelqu'un qui souffre de troubles mentaux, et qu'on est exactement au même niveau face à une musique, face à un tableau. Enfin, on va plus parler de musique ou de chant quand il y a un soignant, un patient ou quelqu'un d'extérieur. On éprouve ce qu'on éprouve. Il n'y a pas besoin des fois de mots. On le ressent. Et donc, c'est très important, ça. Parce qu'il y a quand même une certaine ségrégation vis-à-vis de la maladie mentale. Et qu'à ce niveau-là, eh ben, on se retrouve. On se retrouve, il n'y a plus de ségrégation.
Je crois que c'est tout l'enjeu des pratiques artistiques, effectivement, oui, ce que vous dites. Et ça, je crois que c'est très important. Vous souleviez l'ouverture, hein, tout à l'heure, monsieur Augier. Je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'effectivement, les pratiques artistiques, quelles qu'elles soient, remettent en jeu les rôles et la distribution des compétences. C'est-à-dire qu'à partir de là, qui qu'on est, on peut se rencontrer au travers d'une discipline artistique.
Exactement. On éprouve les mêmes choses, on fait les mêmes choses. Et je peux vous dire, dans certaines fois, les patients sont bien plus doués et plus à l'aise dans certaines pratiques que les soignants qui peuvent être là. Et puis, je pense aussi que ces activités, c'est un peu une interface entre notre société qui aussi clive beaucoup et rejette un peu la maladie mentale. C'est une interface parce que là aussi, le monde extérieur vient à l'hôpital de Bassin et voit que ces gens dont on a peut-être une idée un peu figée, hein, je repense à tout ce que quand l'école s'est installée, hein, on a de la peur.
J'imagine hein, bien.
Et ben ils participent et puis ils voient que ben non, c'est pas si terrible que ça et qu'on peut partager des choses et que les gens font des choses très bien. Donc c'est une interface entre notre société et la psychiatrie, parce qu'elles sont très liées, mais pourtant on les clive beaucoup.
Ça, je crois que c'est important que du coup, et alors après, c'est pour ça que ça nous intéresse aussi beaucoup, finalement, quand on évoque l'école de musique, quand on évoque le croisement, c'est ces choses, comment finalement, ce que l'on va transmettre, ce qui va être aussi en jeu, tout dépend sur quelle position on se place. Est-ce qu'on a envie, effectivement, de distiller seulement un savoir et de laisser la personne à distance de ce savoir, ou est-ce qu'effectivement, ça va être un espace de rencontre avec ce que chacun est, avec ses potentialités présentes, son imaginaire, sa manière d'être, mais c'est un espace pour se rencontrer.
Oui, exactement. C'est un espace et les lieux de rencontre actuellement, globalement, hein, dans le monde auquel on vit, il faudrait les privilégier parce qu'on se passe plus les uns côté des autres que de se rencontrer. Donc, c'est très intéressant.
Alors peut-être Fabrice Chardon, si on prend un petit peu maintenant, sans dire de hauteur, mais on élargit le côté géographique aussi des choses et en rejoignant aussi également l'émission dont on parlait tout à l'heure de la DMS, mais aujourd'hui qui est devenue Diapason 73, EPCC, donc avec un rayonnement et des missions aussi particulières, qui aussi a intégré pleinement, parce qu'on trouve suivant les régions et les départements pas tout à fait les mêmes implications, mais qui depuis de nombreuses années s'est penché sur cette problématique. En tout cas, de l'accès de tous ces publics aux pratiques artistiques. Alors, restons peut-être encore, parce qu'on pourrait évoquer la peinture, la danse, le théâtre, bien évidemment, mais peut-être sur l'élément musical, qui est un petit peu l'angle sur lequel on voyage avec cette enquête régionale. Au niveau de Diapason, du coup, après, à partir de ces exemples, comme ici Bassin, cette collaboration avec le CHS, l'école de musique implantée, les actions qui sont mises en place, comment Diapason travaille à partir de ces données, comment elle soutient, aider au développement de toutes ces actions.
Il faut quand même rappeler effectivement que le CHS a souvent servi d'exemple. C'est-à-dire que pour développer la totalité des actions qui maintenant ont été élargies à la totalité du département, et on y viendra dans quelques instants, bien souvent on s'est appuyé effectivement sur la capacité de l'école de musique à avoir pu intégrer un CHS et comment le CHS a pu effectivement également accueillir une école de musique en son sein. Donc ça fait maintenant un petit peu plus de 15 ans et on se rend bien compte que, on le disait tout à l'heure, le schéma départemental de 2004 a permis effectivement de développer, de faire prendre conscience aux directeurs des établissements à la fois culturels, mais à la fois sanitaires et médico-sociaux, de l'importance effectivement de la rencontre dont on vient de parler, et qu'il était assez facile finalement de traverser la rue pour faire en sorte que les musiciens puissent passer du côté du sanitaire et que le sanitaire puisse éventuellement envoyer des patients dans l'école de musique d'à côté. Et donc à ce jour, sans parler beaucoup de chiffres, mais on est sur un état des lieux, donc autant
oui,
en donner quelques-uns.
Justement,
il y a 25 établissements d'enseignement des pratiques artistiques en Savoie. Sur ces 25, il y a, on va se rapprocher, sur la totalité, il y a 24 élèves en situation de handicap accueillis.
Sur la totalité.
Sur la totalité des élèves. Mais, alors ça c'est le premier chiffre qui peut éventuellement des fois nous dire, tiens, il n'y a pas grand monde, ça ne marche pas très très bien. Cependant, sur ces 24 élèves accueillis, on est de plus en plus sur une véritable intégration. On parlait tout à l'heure de la difficulté éventuellement à faire rentrer ces élèves en situation de handicap dans un vrai parcours artistique au sein de l'école.
Tout à fait.
De plus en plus, la pratique collective, la nouvelle organisation des enseignements dans les écoles de musique, telle que la Porte Diapason, et c'est là-dessus où Diapason a sa place également, permet de plus en plus à ces élèves d'intégrer un parcours, on va dire, au sein de l'école, parmi les autres élèves, ceux qui ont les cheveux longs, ceux qui ont les cheveux courts, ceux qui sont blonds, ceux qui sont grands, ceux qui sont petits.
Oui, parce que finalement, souvent, dans l'organisation de l'école de musique, avec ses cursus, avec le parcours qu'elle peut proposer, on avait quand même une certaine difficulté à trouver des parcours différenciés, si je peux dire un terme un peu comme celui-ci, qui fera en sorte que, quel que soit l'individu d'ailleurs, celui qui a envie de venir, bien sûr, le professionnel, il puisse trouver tout à fait l'encadrement nécessaire et la qualité d'un encadrement comme celui-ci pour lui permettre d'aller vers ses objectifs. Mais aussi comment le tout un chacun, et d'autant plus la personne en situation de handicap ou la personne handicap sensoriel ou autre, puisse trouver au sein de cette école finalement un parcours qui lui corresponde. Et là, on n'a pas croisé encore toutes ces questions avec Daniel Hidalgo tout à l'heure, mais effectivement, là, des questions d'organisation, de manière de penser aussi le projet artistique de l'établissement, là, devient une chose aussi également importante.
Effectivement. La notion de projet d'établissement est importante et on le voit maintenant de plus en plus. C'est-à-dire que la majorité des écoles, alors sur les 25, on en a 19 qui ont intégré la notion d'accueil de la personne en situation de handicap dans le projet d'établissement. Donc ça, c'est un chiffre qui est déjà un petit peu plus positif.
Oui.
Et effectivement, qui montre qu'il y a une volonté des écoles. Il y a une volonté...
ça bouge
et
sur
ça
le
bouge,
terrain.
Ça bouge véritablement. Et on est en train de faire en sorte que les structures sanitaires puissent effectivement se rapprocher de ces écoles. Je donne encore quelques chiffres parce qu'ils sont importants. Il y a 8 écoles qui sont spécifiquement équipées pour... l'accueil des personnes en situation
donc,
de handicap.
Donc,
qui
ont fait les efforts, on évoquait avec Anne-Gaëlle le
c'est
bâti, quoi, finalement.
C'est ça, effectivement.
Parce que ce n'est pas tout simple, effectivement.
Voilà. Malgré certains locaux qui, parfois, sont un petit peu difficiles.
Certainement.
On a 13 écoles de musique à ce jour, sur les 25. Donc, on a un petit peu plus de la moitié qui accueillent véritablement des personnes en situation de handicap dans leur parcours au quotidien. Nous avons 14 écoles de musique qui renforcent cet accueil dans le projet d'établissement et qui, effectivement, mettent en place, on va parler de réunions d'équipes spécifiques, on va parler d'équipes de travail autour de cette problématique pour savoir comment les enseignants peuvent réagir face à cette problématique. Alors, sans mobiliser la totalité d'une équipe d'enseignants, mais qu'il y ait un pourcentage de l'équipe qui soit prêt à accueillir ce type effectivement de public en situation de handicap. On a une école qui dispose de matériel instrumental spécifique pour l'accueil de personnes en situation de handicap, plutôt essentiellement sensoriel en ce qui concerne cette école. Et puis, les parcours spécifiques dont on parlait pour les personnes adultes en situation de handicap concernent à peu près 3 écoles qui ont véritablement fait une démarche d'accueil et de modification des parcours pour qu'il y ait une véritable inclusion de la personne handicapée au sein de la totalité des élèves qui sont inscrits.
Oui, ça nous montre bien qu'il y a une dynamique en cours, que bien sûr, suivant les endroits, hein, suivant les équipes, suivant aussi les gens qui sont là, mais on voit que effectivement, cet accueil
sans parler de ce généralisme, en tout cas, fait un grand pas, en tout cas en avant, par rapport à ce qu'il n'était il y a quelques années en arrière, et que certains départements, et la Savoie aussi, donc fait un effort particulier, j'irai là-dessus. Est-ce que, par rapport à ce qu'évoquait Fabrice Chardon, Daniel Hidalgo, vous êtes quelquefois appelé par vos collègues qui vous disent, ben voilà, on aimerait peut-être pouvoir nous aussi s'aventurer là-dessus. On vous appelle peut-être pour des conseils, on vous...
Non, là... Je crois que non, les collègues le savent, ils savent comment on fonctionne avec l'hôpital. Mais bon, je pense qu'après, chaque structure essaie de faire en fonction de ses moyens, en fonction des demandes aussi qu'on lui soumet. Et nous, on est disponible, hein, s'il faut.
J'imagine.
Il n'y a pas de problème.
L'appel est lancé d'ailleurs.
Et, voilà. Mais après, non. C'est un peu chacun y va de son côté. Voilà, pour l'instant, on en est là.
Très bien. Et ça veut dire aussi, Fabrice Chardon, qu'au niveau de Diapason, il y a ce tissage aussi, j'imagine, qui, même s'il n'y a pas le questionnement ici auprès de l'école de musique de Bassin, c'est ce qu'il y a un aiguillage, c'est-à-dire est-ce que par exemple, soit les associations qui accompagnent aussi ces enfants, ces adultes en situation de handicap viennent auprès de vous ou elles se disent ben, comment on peut travailler autour de cette question. Est-ce que là, il y a un tissage aussi qui peut se faire et qui ferait le lien entre, on l'évoquait, ce partenariat tout à fait privilégié entre le CHS et l'école de musique. Est-ce que entre les associations accompagnant le handicap et les gens de culture, là aussi, il y a un travail qui se fait de concertation, de réflexion autour de ces notions ?
Alors, il se fait effectivement à l'échelle locale. Diapason va faire ce maillage-là. Daniel Hidalgo vient de préciser que ses collègues ne l'appellent pas forcément, parce qu'effectivement, on a la ressource départementale
qui remplit aussi
l'intermédiaire, voilà, par l'intermédiaire de Diapason qui permet d'apporter des solutions. Et les solutions, on va vraiment les apporter à l'échelle locale. Ça, c'est un point important. Et dans ce dispositif-là, une des particularités, c'est qu'on va créer des comités. Ces comités, comme il y en a un au CHS de Bassin, peut-être qu'Anne-Gaëlle en parlera plus spécifiquement tout à l'heure, ces comités... on va être obligé à un moment aussi d'élargir à une autre dominante artistique que la musique, mais ces comités rassemblent tous les partenaires culturels d'un territoire, et l'école de musique en fait bien entendu partie, et les structures sanitaires et médico-sociales de ce territoire. Et c'est ce qu'on appelle des comités d'action culturelle, et ils ont pour objectif de travailler justement sur cet accueil, sur le montage de projets, sur la recherche de financement, parce que c'est important bien également, sur la mise en synergie de volonté éventuellement qui pourrait être individuelle, d'associations comme vous le dites, et puis d'essayer de voir comment ces différents partenaires peuvent essayer de travailler ensemble sur un échelon local. C'est un peu ça l'idée.
Oui, donc là on voit de là où on est parti, de l'école de musique, arrivé dans un CHS, comment tout à l'échelon d'un territoire, il y a une dynamique commune là aussi qui se met en place. Je voulais revenir un petit peu aussi à Anne-Gaëlle Lasso, effectivement sur, sans pour dire refaire la boucle, on arrive bientôt au terme de cette émission, de toute cette dynamique finalement culturelle que ça a impliqué au niveau du CHS, son engagement dans ce, on évoquait tout à l'heure le programme culture, l'hôpital, culture et santé aujourd'hui, comment vous voyez ces perspectives, justement, avec déjà toutes ces années derrière vous, mais les projections, je dirais, dans ce domaine-là, et en fonction de ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire cette dynamique aussi conjointe, qui travaille aussi dans le même axe, je dirais, vis-à-vis de ces accès aux pratiques artistiques, bien entendu avec des patients différents, mais qui vont dans le même sens que vous.
Je travaille au CHS, et en 10 ans, j'ai vu une énorme évolution et un accompagnement... important de Diapason sur toutes ces questions-là. Diapason, effectivement, a pris le temps aussi de se formaliser, de formaliser ses champs d'action.
Bien sûr.
Et ça a été vraiment d'une grande aide pour nous, structures sanitaires. Et donc, je vois l'avenir plutôt confiante. Au CHS, on développe aujourd'hui une douzaine d'ateliers artistiques. C'est vraiment notre premier axe d'intervention, c'est vraiment favoriser la pratique artistique auprès des patients. Ensuite, on essaye de créer la rencontre avec les artistes, donc de faire venir des artistes à l'hôpital, avec le soutien, bien évidemment, de l'école de musique, mais pas que. Il y a d'autres partenaires qui sont autour de la table, comme l'évoquait Fabrice Chardon au sein du comité d'action culturelle, ce qui permet d'avoir un champ d'action culturelle relativement large. Et il nous reste peut-être à travailler au CHS sur la formation des personnels. Cela avait été engagé il y a quelques années, on va dire au démarrage du projet avec l'implantation de l'école de musique et avec la DIMS et la DMS. Et aujourd'hui, je pense qu'on l'avait un peu oublié toutes ces années. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un axe important à développer pour les 5-6 années à venir. Ouais. Oui, pour faire la distinction entre ce que c'est que l'action culturelle en milieu hospitalier et l'art-thérapie, même si ce sont des frontières poreuses, on le sait tous ici, mais il y a quand même des différences qui sont bonnes d'être rappelées.
C'est important de clarifier aussi, oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on l'a moins abordé dans ce moment-là, mais vous avez raison tout à fait, Anne-Gaëlle Lasso, de soulever aussi ce point qui mériterait d'ailleurs toute une émission d'ailleurs.
Un professeur d'école de musique n'est pas musicothérapeute.
Absolument, et ça c'est essentiel. Effectivement, entre ce que peut-être de l'art-thérapie et ce que peut-être un cours de musique, que là non plus il n'y a pas... C'est vrai que quelquefois, certaines personnes ont tendance à faire aussi un peu des confusions, en tout cas, ou à faire que les lignes soient plutôt illisibles et donc, du coup, à prêter à des éléments de confusion. Et vous avez tout à fait raison. Je crois qu'il est essentiel de rappeler dans cette fin d'émission. Et je crois que vous vouliez repréciser, vous aussi, Bernard Grosleron, justement, cet aspect-là.
Oui, c'est très important parce que c'est une thérapie, ça demande une formation et ça rentre dans une certaine logique. Tandis que les pratiques musicales, c'est aussi bien, mais on n'est pas thérapeute, on partage avec la personne. Moi, je pratique le conte, il y a une différence entre le conte thérapeutique et le conte que l'on peut pratiquer avec des gens. Et ça, je pense qu'il faut le dire et le redire pour ne pas tomber dans des excès et surtout ne pas perdre les patients. Ne pas les emmener dans des endroits où on ne pourra pas les récupérer. Ça demande... thérapie, ça dit bien, thérapeute, ça demande une formation et l'objectif n'est pas le même. Et je pense qu'ici, enfin, en fréquentant l'école de musique, je me suis rendu compte que justement, il n'y avait pas, enfin, quand j'ai travaillé avec des intervenants, il n'y avait pas cette confusion.
Cette confusion.
Parce que moi, je n'aurais pas pu travailler dans la confusion.
Dernier mot, Jean-Pierre Buet, pour conclure.
Oui, je pense qu'on est vraiment sur une porte qui s'est ouverte, là, j'ai envie de dire. Je prendrais plus une image, quand les écoles de musique se sont ouvertes aux musiques actuelles, c'est pas en affichant, on accueille des musiques actuelles, que les choses ont bougé. Il a fallu du temps et on est dans ce... Alors, quand on parle de chiffres, ça peut paraître... On est dans des choses similaires. Je crois que les consciences sont en train de... On parle maintenant d'accueil des personnes handicapées dans les structures d'enseignement, ce qu'on ne faisait pas il y a 10 ans. On était un peu précurseurs ici, je disais, par les événements. Hein, enfin, voilà. Et je crois qu'on est vraiment dans cette démarche-là. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que il y a bien évidemment les écoles de musique qui sont un acteur culturel important sur les territoires, mais notre préoccupation aussi à Diapason, c'est, Fabrice le disait tout à l'heure, par le biais des comités d'action culturelle, c'est de mettre autour de la table les différentes ressources artistiques, l'école de musique étant un acteur important, mais aussi d'autres, des artistes, d'autres, les pratiques amateurs, de façon à donner du sens à tout ça et que voilà, chacun travaille en complémentarité. Ça me paraît important et je crois que tout le monde se nourrit sur les arts plastiques, par exemple, qui viennent à la musique, enfin des choses comme ça. Je crois que une porte s'est ouverte et que voilà, on est dans ce cheminement.
Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission enregistrée le 31 janvier dernier dans l'auditorium du CHS de la Savoie à Bassens. Je tiens à remercier à nouveau Monsieur Sylvain Augier d'avoir facilité cet accueil ici au CHS. Et puis, bien sûr, la présence de tous nos invités, Daniel Hidalgo, directeur de l'Écomusique, Jean-Pierre Buet, Anne-Gaëlle Lasso, Bernard Grosleron, Yann Pajan aussi également. Et puis, bien sûr, Fabrice Chardon, de nous avoir justement emmener, alimenter notre réflexion qui va se poursuivre dans nos prochaines étapes en région, mais qui, je crois, va être très précieuse. Alors, grand merci aussi à l'équipe technique de Résonance Contemporaine, Simon Deborne à la technique et à la réalisation, Laurent Cusin à la régie générale. Cette émission sera rediffusée jeudi prochain de 16h à 17h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org pour écouter Radio Tropique FM, votre radio préférée quand même, en direct ou en différé, podcaster et connaître la grille des programmes. Vous pouvez vous rendre sur www.tropiquefm.fr. Nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour votre confiance et votre curiosité. Espérons vous retrouver lors de notre prochaine émission. À très vite.